France Inter. La Terre au carré.
Allez, 14h32, Camille Passauvert.
Et je vous parle glacier aujourd'hui. Vous savez, ces masses de glace dans les montagnes qui s'écoulent sous l'effet de leur propre poids. Souvent mis en avant quand on parle réchauffement climatique. Vous avez tous, j'imagine, vu par exemple les images de la célèbre mer de glace dans les Alpes qui se réduit comme peau de chagrin d'année en année. Il y a plus de 200 000 glaciers de montagne dans le monde qu'on sait parfaitement situé grâce aux satellites, mais dont on ne connaissait pas vraiment le volume, la quantité d'eau qu'il renferme jusqu'à lundi dernier. Lundi, parution d'un atlas des glaciers en 3D, en quelque sorte, piloté par le glaciologue de l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble, Romain Millan.
Cet atlas des glaciers nous a permis de vraiment changer l'image qu'on avait de la forme des glaciers en trois dimensions. En fait, ça, c'était extrêmement important pour les projections futures de l'évolution des glaciers, parce que ça permet de déterminer précisément quelle est la glace qui va fondre en premier et celle qui va rester le plus longtemps. Il y a des millions de personnes qui dépendent des ressources en eau qui arrivent de la fonte des glaciers. Donc, quantifier ces masses d'eau pour ces populations, c'est très important pour mieux anticiper les effets du changement climatique.
Autrement dit, tous les éléments pour potentiellement mieux organiser et gérer la ressource en eau sur place, puisque les décideurs en particulier auront une meilleure idée de quand l'échéance approche, dans 50, 70 ou 20 ans. Mauvaise surprise dans les Andes, par exemple.
On a regardé spécifiquement les glaciers qui sont proches de la ville de La Paz. Et donc, pour ces glaciers, on a remarqué qu'en fait, les stocks d'eau étaient 26% plus faibles que ce qu'on avait estimé auparavant. Donc, ce qui a des conséquences directes sur la disponibilité en eau pour boire, mais aussi pour l'agriculture et la production d'électricité.
Un stock d'eau un quart moins grand que ce qu'on pensait jusque-là, pendant qu'en Himalaya, c'est le contraire. Les volumes sont plus importants, de 37%. Donc, on souffle un petit peu. Alors là, vous allez me demander, vous demandez d'ailleurs peut-être, comment ont-ils réussi, ces chercheurs, à déterminer les quantités de glace? J'ai demandé à un autre des auteurs, Jérémy Mougineau.
La manière la plus simple, c'est d'aller sur les glaciers et de mesurer leur épaisseur. On a fait ça pour quelques milliers de glaciers, sachant qu'il y en a plus de 200 000 dans le monde. Donc, en fait, 1% des glaciers ont des mesures dessus. Et donc, à partir du moment où on se pose la question quelle est la taille de ce réservoir, il a fallu trouver des méthodes qui permettent de faire ça de manière un peu générale, sans avoir à aller sur place.
Alors, je fais durer le suspense
un petit peu.
Et je précise que c'est pas eux, personnellement, qui sont allés faire les quelques relevés sur quelques milliers de glaciers, c'était dans les archives. Donc, indice, pour continuer le suspense, l'écoulement du glacier est corrélé avec la masse du glacier. Et Mathieu Morlighem, professeur en sciences de la Terre à l'université de Dartmouth aux États-Unis, vous explique quand même le reste.
Les satellites ne peuvent pas voir sous la glace, ne peuvent pas voir cette épaisseur. Donc là, on a utilisé une donnée en plus, qui est quel est le déplacement. On a utilisé, combiné ça avec de la physique, comment la glace se déforme, et on a pu déterminer, ok, si elle se déforme de cette façon et qu'elle a cette vitesse en surface, l'épaisseur doit être celle-ci.
Et le résultat, après 2 ans de recherche, c'est que l'ensemble des glaciers de montagne recèle moins d'eau qu'on ne le croyait. Pas cool du tout donc pour les populations qui en dépendent, mais d'autres pourraient se dire, à la lecture des prévisions du GIEC sur l'augmentation du niveau des mers, mais trop cool, au contraire, ça va faire moins d'eau qui se déversera au final dans les océans. Sauf que surtout pas.
Le message qu'on ne veut pas faire passer, c'est on est tranquille, il y a moins de glace à fondre. Non, ça c'est complètement faux, il n'y a aucune révision de ces projections.
Parce qu'en fait, même si tous les glaciers fondaient d'un coup, imaginez les 200 000 fondent d'un coup, mais en fait, c'est une goutte d'eau dans l'augmentation du niveau des mers, 25 cm. Écoutez un petit peu la comparaison faite par Romain Millan.
Si tout l'Antarctique fond, c'est une augmentation du niveau des mers de 57 mètres. De la même manière, le Groenland, si tout le Groenland fond, c'est 7 mètres d'élévation du niveau des mers. Donc vraiment, sur le long terme, les principaux contributeurs au niveau des mers, ça va être l'Antarctique et le Groenland.
Qui ne sont pas des glaciers, je le rappelle, on confond souvent, et Mathieu Morlighem le confirme.
Il y a une confusion un petit peu entre les glaciers de montagne et les calottes polaires, qui sont le Groenland et l'Antarctique, qui sont vraiment les gros monstres quand on parle du niveau des mers. Donc je pense qu'il y a une confusion au niveau du grand public, qui est que ça pourrait apparaître comme une bonne nouvelle, 20% de moins, mais c'est rien du tout par rapport à l'augmentation qu'on estime à au moins 1 mètre d'ici la fin du siècle.
Voilà, donc ces glaciers moins volumineux qu'on ne le croyait, c'est juste, je le répète, une mauvaise nouvelle pour des millions de personnes qui en dépendent. Et désormais, il faudrait zoomer encore un petit peu plus pour préciser encore davantage les nouvelles données.
On a besoin de validation de terrain. Et en fait, dans des régions comme l'Himalaya ou les Andes, on a très très peu de données. Donc vraiment, il y a un très gros effort scientifique à faire sur la collecte et le partage de ces données dans ces régions où des millions de personnes dépendent de l'eau de fonte des glaciers.
Donc vous lancez une sorte d'appel en fait.
Oui, en quelque sorte.
Et en attendant, sachez que tous les éléments de l'étude parus dans la revue Nature Géosciences sont publics, bien sûr, et donc à la disposition du reste de la communauté scientifique, et pourquoi pas, de certains gouvernements.
Et c'était Camille Passauvert, à réécouter bien sûr sur la page de l'émission. France Inter.